franceinter.fr.
L'histoire des Noirs en Amérique, c'est l'histoire de l'Amérique. Et ce n'est pas une belle histoire.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Don't go away, Tom.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Pourquoi les Noirs ne sont pas optimistes, demande le présentateur blanc. La vraie question, répond-il, ce n'est pas le sort des Noirs, c'est le sort de ce pays. Une entrée en matière incisive dans un film puissant, la pensée en image d'un grand écrivain américain. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Il s'appelait James Baldwin, 1924-1987. Écrivain et critique brillant de la société américaine, et il a été un modèle pour un futur cinéaste, Raoul Peck, qui a mis en scène cette pensée percutante. Le film s'appelle « I am not your Negro ». Bonjour Joy Star.
Bonjour.
Vous êtes la voix française de Baldwin, celle qui ponctue ce savant montage d'images et d'archives, qui donnait surtout votre tonalité, votre tempérament à ces paroles précieuses. À vos côtés, un spécialiste de Baldwin, un professeur dont la thèse de doctorat était dédiée à l'écrivain. Bonjour Jean-Paul Rocky.
Bonjour.
Vous avez vu ce film, bien sûr, qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours des dernières décennies, à travers trois grandes figures, Edgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King. I am not your Negro de Raoul Peck sort en salle mercredi prochain, et pour l'avoir pratiqué sur grand écran, l'impact est énorme. Les sorties de ce nouveau mercredi, les héros, un héros noir dans un film de genre, deux comédiens dans un bateau, une adolescence sacrifiée, une famille turque et un homme coincé dans un tunnel.
Si on veut être un écrivain en étant noir, on risque de devenir une espèce de clown. Parce qu'on n'a jamais pensé que vraiment qu'un noir peut devenir écrivain. Enfin, je parle de ma génération, n'est-ce pas? Il y avait, mais ça n'existait pas essentiellement dans l'esprit de mes compatriotes. Vous voyez ce que je veux dire?
Yes.
Donc, il a fallu pour moi que je décide tout de suite que je ne suis pas folkloriste. Je ne suis pas né pour vous amuser. Je suis un écrivain comme un autre écrivain.
Oui, James Baldwin, écrivain américain parlé français, pour avoir vécu chez nous d'abord à Paris de 48 à 57 et à Saint-Paul-de-Vence de 70 à sa mort en 87. Joy Star, vous connaissiez Baldwin et ses écrits avant de l'incarner?
Je connaissais Baldwin de nom, je savais qui c'était, ses écrits non. Disons que j'ai un peu plus approché dernièrement, mais non, sinon je connaissais juste de nom, quoi. Je savais qui il était, c'est tout.
Baldwin a donné effectivement un nom et une forme à ce que ressentait Raoul Peck. Est-ce que vous, il y a quelqu'un, qui que ce soit, qui vous a donné l'élan et qui a exprimé ce que vous aviez en vous et que vous avez exprimé après?
Ouais, enfin c'est peut-être pas quelqu'un, c'est la musique de manière générale, quoi, ouais, puisque je considère que c'est la première machine pour moi de téléportation émotionnelle et de plein de niveaux, quoi. Pour moi la musique est vecteur de réminiscence, d'histoire, de
voilà, de catharsis, c'est aussi.
Ouais, aussi, ouais, ouais, c'est le champ des possibles est super large, quoi.
Avant d'écouter un morceau de la BO de ce film, Jean-Paul Rocky, est-ce que vous pourriez nous dresser un portrait de James Baldwin?
Alors c'est difficile peut-être de brosser un portrait de Baldwin, tant sa pensée est complexe, et en même temps que son écriture est limpide, d'ailleurs. Baldwin, c'est un visionnaire, c'est un penseur de l'identité qui articule la conscience au désir, et ce faisant, qui donne une nouvelle possibilité de compréhension à la construction de l'identité. C'est un écrivain majeur et c'est un penseur majeur.
Plus concrètement, donc, il a apporté quoi par rapport à ce racisme anti-noir américain? Quelle a été l'originalité de sa pensée?
Alors, c'est une pensée qui s'inscrit dans la tradition littéraire et philosophique africaine-américaine et plus largement noire. Mais sa spécificité, c'est d'avoir compris que le cauchemar racial américain a une une généalogie dans la psychosexualité tourmentée américaine.
Oh là, j'espère qu'on va être plus clair.
Que on ne peut pas penser l'identité noire et la conscience noire sans penser en même temps aux identités de genre, à la masculinité, à la féminité et aux sexualités.
On y revient après, donc, je disais, un morceau de la BO, Kendrick Lamar, The Blacker, The Berry.
Hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will convey just what I mean. I mean, it's evident that I'm irrelevant to society. That's what you're telling me. Penitentiary would only hire me. Curse me till I'm dead. Church me with your fake prophesizing that I'ma be just another slave in my head. Institutionalized manipulation and lies. Reciprocation of freedom only live in your eyes. You hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Jealous of my wisdom and cards I dealt. Watching me as I pull up, fill up my tank, then pill out. Muscle cars like pull-ups, show you what these big wheels about. I, black and successful, this black man meant to be special. Cat scans on my radar, bitch, how can I help you? How can I tell you I'm making a killing? You make me a killer, emancipation of a real nigga. So no matter how much I say I like to preach with the Panthers, or tell Georgia State Marcus Garvey got all the answers, or try to celebrate February like it's my B-Day, or eat watermelon, chicken, and Kool-Aid on weekdays, or jump high enough to get Michael Jordan endorsements, or watch BET cause urban support is important. So why did I weep when Trayvon Martin was in the street, when gangbanging make me kill a nigga blacker than me? Hypocrite.
I Am Not Your Negro est bien au-delà du biopic, bien sûr, et bien plus que cela, puisqu'il embrasse à travers la pensée de Baldwin les luttes sociales et politiques des Afro-Américains d'hier et d'aujourd'hui. C'est fou de Joe Starr dans le film, parce que à travers le montage d'archives, alors il y a des archives anciennes qui sont colorisées, des archives beaucoup plus récentes qui sont noir et blanc, et ça montre bien que le problème est toujours le même.
Ah bah il y a une continuité en fait, continuité. Je pense qu'il y a quelque chose qui a pas été réglé de toute façon. Enfin c'est évident au vu de même la chronologie du doc, où il commence par justement des images qui sont très actuelles, et puis on a l'impression qu'en fait ça ne s'est jamais arrêté, ça n'a jamais eu. Enfin voilà, comme je dis, qu'il y a une continuité dans tout ça, quoi. Que c'est carrément culturel, quoi, malheureusement, quoi.
Ça veut dire, Jean-Paul Requier, que Baldwin vivrait maintenant, sa pensée serait intacte, je veux dire, il dirait la même chose.
Je suppose. Je ne sais pas ce qu'il penserait et comment il l'exprimerait, et le regard qu'il porterait sur la situation contemporaine des deux côtés de l'Atlantique, d'ailleurs. Mais sa pensée, elle est vivante. Sa pensée, elle est vivante. Et cette façon d'englober toutes les identités, de réfléchir finalement au caractère labile, mouvant des identités, la façon dont elles se croisent, ça, c'est encore très prégnant. Ça a une dimension contemporaine. Et d'ailleurs, le mouvement Black Lives Matter, actuellement aux États-Unis, c'est un mouvement qui s'inscrit dans ce croisement des identités une façon de penser les choses pour laquelle Baldwin compte beaucoup.
Ça veut dire la vie compte, la vie noire compte, et ça, Black Lives Matter.
Absolument, ouais. La vie noire et au-delà, c'est une philosophie inclusive.
Alors que tout dans la société américaine est contre cela. C'est-à-dire il y a un raidissement blanc permanent contre toute imbrication. Ou contre une véritable imbrication.
Il y a à tout le moins un morcellement, ouais. Et une partition fondamentale noir-blanc.
Ouais. Joe Starr, vous, dès le début avec Cool Chain, vous avez énoncé une différence. Il est blanc, je suis noir. La différence ne se voit que dans les yeux des bâtards. Vous vous rappelez des paroles après?
Après des paroles, non.
Non, mais l'autre refrain, je suis blanc, il est noir. C'est une leçon pour l'histoire, blanc et noir. L'histoire est à revoir. Ouais. Non, c'était une vraie marque, une inscription dès le début, ça. Hein.
Ouais.
J'ai vu le clip, vous étiez super jeunes tous les deux.
Bah écoutez, ça n'a pas bougé. Hein. J'ai vu un débat entre deux personnes il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Où il y en a une qui disait, qui reprochait à l'autre d'avoir fait un discours en Algérie où il avait accusé la France de crimes contre l'humanité par rapport à certains événements, j'imagine, ceux de Sétif et autres en Algérie. Qu'elle puisse dire ça me démontre bien que on a un peu oublié que oui, malheureusement, personne n'est parfait, que on est un peu issu de ce truc qui disait honneur conquête et colonie, de ce leitmotiv il y a très longtemps, quoi. Faut savoir vivre avec aujourd'hui, quoi. C'est important. On a tendance à oublier plein de choses, quoi, malheureusement, quoi. Donc voilà, c'est des petits rappels comme ça qu'on a fait, parce que moi j'arrive dans un endroit qui je crois est très représentatif de ce qu'est la France, c'est-à-dire un endroit très cosmopolite, la banlieue.
Ouais.
Voilà, surtout Saint-Denis à l'époque où on était, il y avait plein de communautés, on vivait tous ensemble. Voilà, quoi, tous les deux pieds dans la même merde, quoi.
Vous dites négropolitain, descendant d'esclaves. Et d'ailleurs, Joey, est-ce que ça vient bien de là?
Négropolitain, c'est un peu l'appellation qu'ont les Antillais concernant les Antillais qui vivent en France, quoi. Mmh. Voilà.
Et est-ce que c'est vrai que Joey, au temps des champs de coton, donc c'était le surnom des esclaves?
Ouais, c'était quelque chose que je me suis un peu inventé, mais c'était, Joey, quelque chose de nec de maison, quoi. Voilà,
ouais.
Je voulais avoir l'air de ça, puisque j'étais un peu instruit.
Est-ce que, question directe, vous avez souffert du racisme beaucoup?
Bah ouais, mais bon, j'étais déjà... vous savez, moi j'ai grandi en faisant des graffitis, en étant toujours un peu en marge. Donc le racisme, bien sûr que je l'ai senti, mais j'allais aussi un peu le chercher, quoi. Je cherchais tout le temps à marquer ma différence. Donc forcément, les retours sont jamais vraiment... Enfin voilà, quoi. Donc le racisme faisait partie du reste, pour moi. Mais effectivement, ma mère m'a dit un jour que je suis rentré... Enfin, je sais pas, je vais avoir 6 ans. Je suis rentré comme ça et je lui ai demandé... c'est quoi un arabe? Et en me demandant pourquoi tu me poses cette question-là, elle a compris que quelqu'un venait de me traiter de sale arabe. Bon voilà, sauf que... Je viens des Caraïbes, je suis français des Caraïbes, donc voilà, je ne suis pas nord-africain. Voilà, donc très tôt, oui, voilà, oui, puis enfin, c'est, oui, il y a un truc qui s'appelle le racisme ordinaire en France, quoi. Ouais. Alors le racisme ordinaire, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus dangereux, puisque déjà nous, entre nous, on s'appelle Crouille, Négro, Bougnoul ou Bamboula.
C'est pas d'hier.
Ça, c'est voilà. Ça, c'est une chose. Ouais. Mais après, il y a quelque chose. Non, mais il y a, oui, quelque chose qui est en rapport avec la peur, quoi, avec et puis la méconnaissance de l'histoire de France, quoi, surtout, quoi.
Il est évoqué dans le film les héros d'un jeune noir américain, et on va entendre votre voix de Joey Starr évoquer cet épisode-là sur les héros blancs.
Aussi loin que je m'en souvienne, les héros étaient blancs. Pas seulement à cause des films, mais à cause du pays dans lequel je vivais, et que les films ne faisaient que refléter. Je méprisais et craignais ces héros, car ils prenaient, eux, la vengeance entre leurs mains. Pour eux, la vengeance était un droit. Et oui, je le compris alors. Mes compatriotes étaient mes ennemis. J'ai l'impression que toutes ces histoires ont pour but de nous rassurer, en nous faisant croire qu'aucun crime n'a été commis. Nous avons créé une légende à partir d'un massacre.
Plus loin, d'ailleurs, il dira, ça fait un choc, alors que vous pensez que votre héros est Gary Cooper, dans les westerns, que s'apercevoir que les Indiens, c'est nous. Jean-Paul Rocky. Ça vient de loin, quoi. Je veux dire, des références cinématographiques, elles sont super importantes, et d'ailleurs, elles ponctuent beaucoup le film.
Oui, oui, absolument. J'écoutais l'extrait que vous venez de diffuser,
ouais.
Et il me semble que qu'à ce moment-là du film, on voit les images du film The Defiant Ones avec Tony Curtis,
ouais,
et Sidney Poitier.
Ouais.
Et c'est absolument exemplaire de la façon dont Baldwin faisait lecture des relations raciales et de la représentation de ces relations raciales dans la pratique artistique, c'est-à-dire où le personnage noir américain est en position de sacrifice pour sauver le blanc. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve pas seulement dans le cinéma, mais qui a une très longue histoire aussi dans l'histoire de la peinture américaine. Une existence limitée et déterminée par rapport aux blancs. Et c'est la dénonciation du racisme chez Baldwin, c'est une critique de cette distribution des positions, c'est-à-dire de fixer le sujet noir à un rôle particulier, de le déterminer et de ne pas laisser en fait d'espace pour la définition de sa propre identité, de sa propre position subjective. Et c'est ça que Baldwin voulait faire, et c'est ça qu'il revendiquait quand il disait je veux être un écrivain, je veux être un écrivain honnête, un homme honnête et un bon écrivain.
Et vous, c'était quoi votre lecture des films, vous, petite Joe Star, par exemple? Parce qu'en France, on n'est pas mieux lotis, hein.
Ouais, mais enfin, moi, j'ai quand même grandi dans un, le contexte est complètement différent. Ouais. Mais moi, j'ai aimé Houry, Verneuil, enfin, voilà. Donc, et puis, je regardais ces films-là, j'adorais le bagou, quoi. Parce le bagou, les histoires, parce que j'ai grandi dans un endroit où, les gens parlaient de manière très fleurie, et que, le langage, façon commis garagiste était de coutume, entre adultes, enfants et autres. Donc, j'étais plus pris par ça que, j'ai surtout été élevé par un homme qui a essayé de faire de moi quelqu'un de plus intégré qu'un blanc, quoi. Donc, qui a arrêté de manger du piment et ainsi de suite. Hein. Ouais. Donc, j'ai mis...
Déculturé, quoi.
Voilà, exactement. Donc, tout ça s'est réveillé quand j'ai commencé à mettre le nez dehors et à rencontrer des gens comme moi, pas forcément antillais ou autres, mais des gens de mon âge, quoi. Voilà.
Quand Raoul Peck vous a proposé de faire cette voix, vous avez accepté tout de suite?
Ouais. Comment... Non, mais je connaissais Raoul parce que j'avais j'ai une petite histoire aussi avec j'avais monté une asso avec d'autres qui s'appelait Devoir de mémoire,
ouais,
où on avait on faisait pas mal de choses pour sur le passé pour réveiller un peu la citoyenneté qui sommeille pas forcément que dans les quartiers mais chez les jeunes, chez les gens en général. Donc on faisait pas mal de colloques avec des historiens, tout ça, et on racontait telle communauté est responsable du métro, enfin a construit le métro parisien ou autre et ainsi de suite. Donc je connaissais déjà l'aura de Raoul par le biais de ça. Et donc quand il me l'a proposé, plus enfin j'ai lu ce que j'avais à faire et tout, et j'ai eu envie de dire oui tout de suite. Moi, je me suis senti surtout très concerné, enfin voilà quoi.
Alors vous êtes une présence, un corps dont le cinéma s'est emparé, là il restait une voix. Alors est-ce qu'il fallait être la voix de Baldwin et en même temps rester Joe Star?
Ah non, c'était pas ça l'exercice. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'on a fait une première session et qui a duré quand même, parce qu'on l'a fait one time, enfin en une fois, donc de 8h du matin à minuit, on a couvert tout le film. Et je suis parti faire un sound system, donc faire un live machin, et Raoul m'a appelé 2 jours après, donc je revenais, j'avais la voix à moitié, j'étais à moitié quoi, puisque ce que je fais ne souffre pas l'entre-deux, donc voilà. Et du coup il m'a appelé, il m'a dit faut que tu viennes, en fait ça va pas, il y a eu un problème à la prise machin, et je lui ai dit mais là j'ai la voix complètement cassée, tac, et il m'a dit ouais mais moi je dois me barrer, on doit présenter le film, tac, donc faut que tout soit bouclé. Et puis Raoul est un dictateur, quoi. Donc, de fait, t'as accepté le diktat une première fois, tu l'acceptes une deuxième fois. Donc, je suis retourné avec la voix en biais, et on l'a fait, là. Du coup, ça a pris plus de temps. Donc, quand j'entends, là, alors peut-être que je me dis, ça doit parler aux gens, parce que j'étais vraiment au bord de tout. À la fin, j'en pouvais plus, quoi. Et lui, il me dit, mais si, allez, vas-y, tac. Donc, je pense que j'ai dû jouer, enfin, plus, comme je lisais, enfin, la lecture, on va dire, plus ou moins actée se faisait avec les images. Je pense que les deux, ça a dû m'écraser. Voilà. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a pas mal de fois, c'est malgré moi, ça marche. C'est beau, il y a le grain, il y a ce que tu veux, mais je faisais pas forcément exprès, quoi, voilà. Mais voilà, la chose qu'il faut savoir, c'est que la première fois que j'ai fait le doublage, je découvrais en même temps.
Oui.
Donc c'était aussi, tu prends le poids de tout ça.
Prends ça dans ta gueule.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Quoi. Et y a plein de, tout le film est lourd, quoi, lourd de sens, lourd de plein de choses, mais il y a des moments qui sont encore plus pesants. Et en même temps, t'es là, bim, et puis tu veux toi recommencer parce que tu dis mais là c'est juste hallucinant. Puis t'es sous le coup, t'es encore sous le coup de, t'as pas la distance, voilà. Quand on fait un doublage en général, on a visionné le film une première fois et puis bon, moi j'ai fait que des comédies donc des trucs, Ted, tout ça. Hein. Puis là d'un seul coup, je me suis propulsé dans un truc où.
Mais c'est peut-être mieux, non, d'être dans cet état-là.
Pardon.
C'est peut-être mieux d'être dans cet état-là.
Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, quand t'es à fleur de peau comme ça, ça décuple un peu tout ce que tu vois. Quoi. quoi. Mmh. Et puis la manière dont tu dois le faire, t'es peut-être pas. Donc il y avait le dictateur à côté de moi, donc voilà, ça s'est bien passé.
Alors il y a une histoire que on va jumper là-dessus. D'ailleurs, il y a une histoire que vous racontez vraiment bien. C'est un exemple très célèbre. C'est une jeune lycéenne noire qui intègre un lycée blanc. Très très blanc, dans lequel les types et les filles mettent des pancartes contre elle, et Baldwin avec son amie, comment s'appelle-t-elle cette femme, va essayer de convaincre Bobby Kennedy de...
Ils
vont essayer de convaincre Bobby Kennedy d'accompagner cette jeune fille.
Ouais.
On vous écoute, Joystar, dans un geste symbolique donc.
Je dois maintenant esquisser la célèbre rencontre avec Bobby Kennedy. Si Lorraine Hansberry était toujours en vie, elle aurait aujourd'hui presque mon âge. À l'époque de la rencontre avec Bobby Kennedy, elle avait 33 ans. C'est l'une des toutes dernières fois que je l'ai vue debout. Elle est morte à 34 ans. Elle me manque tant. Les gens oublient à quel point nous étions tous jeunes. Pour prendre un autre exemple, plutôt différent, Bobby Kennedy avait 38 ans. Nous voulions qu'il demande à son frère, le président, d'escorter une petite fille noire le jour de son entrée dans une école du Sud profond. Il sera ainsi évident, avons-nous dit, que tous ceux qui crachent sur cet enfant crachent sur la nation. Cela non plus, il ne l'a pas compris. Ce serait, a-t-il dit, un geste moral futile. Nous souhaiterions, a dit Lorraine, un engagement moral de votre part. Il a paru vexé. Il semblait penser qu'il avait perdu son temps. Lorraine ne bougeait pas, observant sans arrêt. Elle a regardé Bobby Kennedy qui, peut-être pour la première fois, l'a aussi regardé. Je me fais beaucoup de soucis, a-t-elle dit, pour l'état d'une civilisation capable de produire cette photographie d'un policier blanc debout sur la nuque d'une femme à Birmingham. Ensuite, elle a souri, et j'ai été content que son sourire n'ait pas été pour moi. Monsieur le ministre de la Justice, au revoir. Elle s'est levée, et elle est sortie de la pièce. C'est alors que nous avons entendu gronder le tonnerre.
Extrait de I Am Not Your Negro. Jean-Paul Rocky, ça casse l'image de Bobby Kennedy, ça, quand même. Hein.
Je crois que l'image que ça casse, c'est le rêve américain. En fait, c'est la chimère radieuse du rêve américain. Là où ça s'effondre, et on l'entend tellement bien, en fait, et on le voit de façon tellement, tellement puissante à ce moment-là du film. Justement par le biais de la figure de l'enfant ou de l'adolescent, c'est la totale fermeture et l'incapacité en fait à ressentir de l'empathie et à finalement permettre une forme d'identification. Le grand message de Baldwin dans son œuvre, c'est l'identification, la connexion, la relation. Et son action politique dans son travail, ça consiste à réfléchir aux conditions pour permettre cette identification-là. Et là, on voit bien à ce moment-là du film que ça s'effondre, que c'est impossible, et que toute la charge émotionnelle de l'événement, elle bute face à la fermeture et très certainement au calcul politique de Bobby Kennedy.
Le même Bobby Kennedy qui va quand même prédire une autre légende d'un président noir 40 ans plus tard, ce qui arrivera, et qui fait dire à Baldwin, ça fait 400 ans qu'on est là, et si on se tient bien, on va peut-être mériter un président noir. C'est quand même fou, ça. Joystar, ça vous a pas frappé aussi, vous connaissez peut-être ça, mais quand il dit, à la fin de l'école, on rentre chez soi, et les noirs n'ont pas la même vie que les blancs. Personne n'est venu dans ma cuisine, aucun ami, aucun copain. Les vies étaient complètement séparées. Moi, ça m'a...
Ouais,
c'est très concret, mais c'est...
Ouais, on connaît ça en France aussi.
Ouais, bien sûr.
Vous savez ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps à Clichy-sous-Bois, c'était un peu ça aussi, quoi. Une ville où il n'y a plus aucune représentation de l'État, où les gens, pour aller à Paris, sont à 18 bornes, mais mettent une heure et demie pour y aller. Enfin, tout ça, on n'est pas très loin non plus. Hein. Mmh. Voilà, quoi. C'est pas la même époque. Et le climat n'est pas exactement le même, mais enfin, dans la tête des gens, ouais, l'exclusion est exactement la même, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est malheureusement encore valide aujourd'hui. Et oui, moi, j'ai aussi connu ça, quoi. Voilà. Oui, moi, j'ai grandi dans un endroit où à l'époque, aujourd'hui, il y a un vélodrome, ça s'appelle le Globe de Stein, là, tout ça. Avant, c'était les maréchaux, quoi. Moi, quand j'ai grandi, la cité se construisait, c'était les maréchaux, il n'y avait rien, quoi. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y avait pas de... Donc, une fois qu'on est rentré chez soi, bah, tout s'éteint. On est plus en phase avec ce que peut nous renvoyer le petit carré magique qu'on appelle la télévision, entre autres, ou autre, quoi, tout le média, quel qu'il soit, quoi. Ouais.
Et quand on est un noir et qu'on veut sortir avec une blonde, c'est compliqué.
Il y a longtemps, j'ai connu une fille blonde à Greenwich Village. Nous ne sommes jamais sortis de la maison ensemble. Elle était bien plus en sécurité seule dans les rues qu'avec moi à ses côtés. C'était un fait cruel et humiliant qui a totalement détruit toute possibilité de relation entre cette fille et moi. Ça arrive tout le temps en Amérique. Mais les Américains sont encore loin de saisir à quel point ce fait est sinistre et ce qu'il révèle sur eux. Quand nous sortions le soir, donc, elle partait seule avant moi. J'attendais 5 minutes. Et je partais seul à mon tour, par un autre chemin, pour la retrouver sur le quai du métro. Nous faisions comme si nous ne nous connaissions pas. Nous entrions dans le wagon, chacun à un bout. Puis nous marchions, séparément, dans les rues du pays de la liberté, pour nous rendre où nous allions, chez des amis, au cinéma.
Extrait nouveau de Je ne suis pas votre... Oh non, d'ailleurs, ça n'a pas été traduit en français.
Si, pour la version télé de, d'Arte, mais pas au cinéma. Juste un mot, Jean-Paul Rocky, est-ce que le plus terrible, c'est que au fond, les deux présidences d'Obama n'ont pas fondamentalement changé la situation de ce point de vue-là?
Je crois que c'est un bilan assez sévère. Les deux présidences d'Obama ont aussi été très importantes en ce qu'elles ont montré que un président noir américain, issu ou se réclamant de la communauté noire américaine, pouvait devenir donc président.
Oui, mais enfin, c'est concrètement, ça n'a pas fait trop avancer les choses quand même.
Il y a beaucoup de choses qui sont restées à un état peut-être embryonnaire dans les projets de Barack Obama, même si la réforme du système de protection santé, c'est un acquis. Mais on minimise aussi la force, la puissance d'inertie d'une partie de la classe politique américaine, blanche, en partie républicaine. Le fait que Barack Obama soit noir a aussi représenté un frein très important à son action politique.
Ah, mais est-ce que en si peu de temps, parce qu'on peut dire sur l'histoire des États-Unis, enfin toute cette histoire, est-ce qu'en si peu de temps, on lui a pas laissé l'endroit miné aussi,
et puis absolument.
Et puis comment tu veux en si peu de temps,
tout à fait d'accord,
remettre le compteur au moins à zéro sur toute une histoire. Enfin voilà quoi. Donc je pense que c'est un peu moi quand, à chaque fois que j'entends ça, je me dis mais vous êtes bien gentil, mais avant lui il y avait du monde, et puis Bush, je pense pas qu'il lui a pas laissé, ils ont bien miné l'histoire, quoi. Donc voilà. Et en tout cas, je me rejoins complètement.
Moi aussi. Moi aussi. Et vous dites, en fait, les choses que je souhaitais dire, donc c'est parfait.
Voilà, en langage comme garagiste, vachement plus synthétisé. Ouais.
peut-être.
I Am Not Your Negro, il sort mercredi prochain en salle. On se retrouve pour les sorties, on réécoute un petit extrait avec vous, Joey Starr, et après... Futur Maskoff.
L'histoire des Noirs en Amérique, c'est l'histoire de l'Amérique. Et ce n'est pas une belle histoire. Que faire? Eh bien, je suis fatigué. Je ne sais pas comment ça va tourner. Mais je sais que de toute façon, ce sera sanglant et dur. Je crois toujours que nous pouvons faire avec ce pays
quelque chose qui n'a jamais été fait. Nous nous trompons ici, parce que nous pensons chiffres. Ce n'est pas des chiffres qu'il faut, mais de la passion. L'histoire du monde le prouve. La tragédie, c'est que la plupart de ceux qui prétendent s'en soucier s'en fichent en réalité. Leur souci, c'est leur sécurité et leur profit.
Chase a chick, never chase a bitch. Chase no bitch. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, never chase a bitch. Chase no bitch. Two cups, toast up with the gang. From food stamps to a whole nother domain. Out the bottle, I'm a living proof. Ain't compromising, half a million on the coup. Drug houses, looking like Peru. Graduated, I was overdue. I'm a dude. Pink Miley, I can barely move. Ask about me, I'm gon' bust a move. Red James, 33 chains. Ocean now, cruising Biscayne. Hit fire, top off, that's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline. Be it fire, Percocet, Miley Percocet. Be it fire, Percocet. Miley Percocets, big firms, rep the set, gotta represent, gang, gang, chase a chick, never chase a bitch, big firms, mask on, fuck it, mask on, big firms, mask on, fuck it, mask on, big firms, Percocets, Miley Percocets, big firms, chase a chick, never chase a bitch, chase no bitches, photo maybe, I drive anything, buy my rings, make them go insane, guillotine, drink from melazine, drink from taking beams, go to those extremes, let's go, parliament, call Amari wins, ballet in Vegas, we was in the tennis, let's go, before the business, Theodore lenses, Theodore prescriptions, focus on the mission, put my intermission, hold on, never take a break, we can pull on, switch states, switch down foreign plates, speech, ain't no way, ain't no fucking way, no, we contemplate. We didn't come to play, no, rock the bank, we gon' rock the game, again they gang, we gang, gang, but they are not the same, we been Percocet, Miley Percocets, be it firm, Percocet, Miley Percocets, be it firm, rep the set, gotta rep the set, gang, gang, chase a chick, never chase a bitch, be it firm, mask on, fuck it, mask on, be it firm, mask on, fuck it, mask on, be it firm, Percocet, Miley Percocet, chase a chick, never chase a bitch, chase a bitch. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Cash gone, never night on.
Laurent, qu'est-ce qui a marché ce mercredi dans les films ?
Eh bien, trois films dont nous allons vous parler en tête du podium, et c'est pas innocent par rapport à la conversation. Get Out.
Ah ouais,
puis,
bien sûr.
Oui. Puis Braquage à l'ancienne dans un tout autre registre américain. Et enfin, le film français De Toutes Mes Forces.
Eh ben, on va commencer par lui, De Toutes Mes Forces, de Chad Chenouga. Portrait d'une adolescence meurtrie, celle de Nassim qui perd sa mère au début du film. Dans les conditions dramatiques, sera envoyé dans un foyer et fera semblant auprès de ses copains des lycées des beaux quartiers de mener sa vie d'avant. Donc entre un foyer dont il récuse les règles et une vie entre guillemets normale qu'il s'essouffle à vivre. Et c'est ce parallèle qui fait la force du film, jamais convenu et fortement documenté puisque c'est un peu l'expérience de Chad Chenouga qui se nourrit de sa propre vie. Et peu à peu, l'empathie opère, aidée en cela par le jeu de ce jeune acteur, il s'appelle Khaled Alouach et Ange et Démon. Il est pétri de culpabilité et il est pris en étau entre ces deux schémas de vie un peu caricaturaux. Vous avez l'air moins enthousiaste.
Non,
que moi.
Oui, non, mais c'est, non, il y a des vraies qualités. Chez Lucas, c'est quand même c'est un cinéaste intéressant depuis 17 rues bleues. On le sait bien, et avec effectivement une forte donnée, on va dire autobiographique, en tous les cas, de très très fort investissement affectif dans ses films. Donc ça se sent, ça c'est indéniable, et ça en fait, vous le disiez en partie, la force. Il y a une grande force aussi, c'est que c'est pas un huis clos dans dans cet endroit, dans ce foyer, mais quand même, il en donne vraiment une belle géographie de cet endroit qui est à la fois une prison, mais pas tout à fait, un lieu aussi tout à fait intime. Et ce qui en fait un lieu intime, et c'est pour moi la grande force du film, c'est celle qu'il dirige, c'est Roland Moreau, dans un rôle de mater, pas du tout dolorosa, mais totalement empathique, touchante, sensible, drôle, humaine. C'est vraiment la grande Roland Moreau, comment elle fait pour passer autant d'humanité, autant de présence dans ce très très beau rôle. On se dit que si toutes les travailleuses sociales, les travailleurs sociaux en France ressemblent à ça, tout ira bien.
Non mais c'est assez juste en même temps.
Mais bien sûr, mais tout à fait.
Album de famille de Mehmet Can Mertoglu, il est turc, et c'est une drôle d'histoire, c'est en Turquie un couple marié qui approche la quarantaine, qui tente à tout prix de garder secrète l'adoption d'un bébé, parce que là-bas c'est très mal vu l'adoption. En fait, il réécrivent l'histoire et il transforme un récit artificielle en histoire officielle. Ah c'est oui, pas une métaphore de la vie politique là-bas aussi.
Oui aussi, c'est aussi Kafka est turc quoi. Manifestement, c'est dingue. Et il y a une scène extraordinaire où le couple, on lui présente une petite fille et là, c'est le premier bébé qu'on lui présente. Ils ont le droit de choisir en quelque sorte. Ils ont droit à 3 tentatives. Et alors ils regardent cette petite fille et pour montrer toutes les fractures turques en une seule scène, je crois qu'on peut pas faire mieux parce que la femme dit oh là là, elle ressemble à une Syrienne. Et son mari dit « Non, plutôt à une Kurde ». Et donc, ils sont tous les deux défaits parce que ça, elle peut ressembler à ces deux minorités que les Turcs, évidemment, détestent. Donc, dans cette seule scène, hyper rapide, tout est dit, c'est un formidable concentré. Et tout le film est sur cette note-là. Tout le film est sur cette incroyable dénonciation de la société turque dans ses aberrations les plus totales. Et je ne vous raconterai pas, parce que je ne veux pas tomber sous le coup de la loi, la résolution finale du film, mais elle est proprement terrible.
Ça s'appelle « Album de famille ».« Tunnel » de Kim Seong-un. Et bien sûr, il est sud-coréen. Alors qu'il rentre trouver sa famille, un homme est accidentellement enseveli sous un tunnel au volant de sa voiture. Pendant qu'une opération de sauvetage d'envergure nationale se met en place pour l'en sortir, scrutée et commentée par les médias, les politiques et les citoyens, l'homme joue sa survie avec les maigres moyens à sa disposition. Film catastrophe donc, et extrêmement efficace et haletant. Ce qu'il fait pour tenir et survivre dans ce cimetière de béton, le tunnel écroulé et l'armature de fer qui l'emprisonne, nous le ferions à sa place. C'est pragmatique et concret, plus l'art de savoir filmer cette solitude et cette détresse dans une voiture, et ce ne sont pas les allers-retours avec l'extérieur qui vont amenuiser ce suspense, puisque à l'extérieur il y a une femme qui se révèle, c'est la sienne et pas une hystérique comme on a l'habitude de voir dans les films catastrophes américains. Du bon gros divertissement avec en plus une critique sociale qui attaque le monde politique, la presse et l'entreprise, et tout ça n'est pas des nuits d'humour.
Ah oui, c'est très réjouissant. Je rappelle quand même que la présidente sud-coréenne est en prison pour corruption actuellement. Ah oui. C'est dire si ce film est loué et tout près de la réalité. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que comme chez Bong Joon-ho, qu'on adore, il y a une façon de mêler l'intime familial avec le social et la corruption qui est extraordinaire.
Braquage à l'ancienne de Zach Braff avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin. C'est pas n'importe quoi comme acteur. 3 amis octogénaires qui décident en fait de braquer la banque qui les a ruinés.
Bah oui, c'est ça. Alors ouais. C'est 3 escrocs mais pas trop. 3 papis. Alors calmons-nous. On n'est pas chez Ken Loach. Hein. Le côté social, on l'oublie assez rapidement. Il y a un petit temps mort même du côté de la comédie, mais c'est pas bien grave parce que ces 3 cabolas sont quand même extraordinaires. Ils sont relayés en plus par une actrice mythique qui est Anne Margaret. Et oui, il y a tout le vieux Hollywood qui est là et c'est absolument réjouissant. Ça fait passer un très très joli moment de cinéma. On a envie de les prendre dans nos bras et de leur dire que tout va bien et qu'ils sont les plus beaux braqueurs du monde et qu'ils ont bien raison de faire ça dès lors qu'il s'agit de se venger des injustices.
Get Out de Jordan Peele. Sur l'affiche, le regard d'un homme noir héros de ce film. Ressemblance troublante avec celle du film de Raoul Peck, I'm Not Your Negro. Une photo des yeux de James Baldwin. Les deux films n'ont rien à voir, quoique ce Get Out va se servir du genre pour dénoncer un racisme anti-noir en Amérique ou comment des blancs, comme l'écrit si intelligemment Jean-François Roger dans le quotidien Le Monde, comment des blancs vont s'approprier la puissance de l'autre et s'en nourrir. J'en ne dis pas plus sur la conclusion du film. L'histoire, le début, pourrait ressembler à un autre film, Devine qui vient dîner, qui est d'ailleurs évoqué dans le film de Raoul Peck. Rose, elle est blanche, vient présenter son petit copain noir, c'est Chris, à sa famille très bourgeoise, le temps d'un week-end à la campagne. Des parents qui le répètent un peu trop souvent, qui ont voté deux fois Obama et qui l'auraient bien fait une troisième si ça avait été possible. Chris, seul noir dans cette propriété, excepté la gouvernante et les jardiniers, étrangement lobotomisés. Et au milieu de cette assemblée majoritairement blanche, l'atmosphère va se tendre, malaise, angoisse, où cela va-t-il nous mener jusqu'à cette deuxième partie et jusque dans l'horreur, un peu trop chargée, je le reconnais, mais détonnant dans le message, et je citerai encore Jean-François Roger, croire que l'autre jouit à votre place est le fondement du ressentiment raciste. C'est un premier film produit par le nouveau Corman, il s'appelle Jason Blum, et pour un tout petit budget.
Deux mots quand même, pour faire un peu le lien avec ce qu'on a dit auparavant dans la première partie de l'émission, c'est la rencontre de Duvigne qui vient dîner ce soir, et Indice, traitement de choc de, d'Alain Jessua. Avec, c'est pas méprisant pour moi. Et ça rejoint ce que Jean-Paul Anquin nous disait tout à l'heure sur le côté sexuel dans l'analyse de Baldwin.
Parce que ce
qui est en jeu ici, c'est de récupérer le pouvoir sexuel des Noirs, c'est clair. Voilà, on n'en dit pas plus, mais ça marche très très bien de ce point de vue-là. Je rejoins quand même votre relativité, pardon, sur le côté un peu démonstratif de la fin et la lourdeur un petit peu de l'ensemble. C'est dommage.
Mais c'est troublant, ces deux affiches qui se ressemblent, ces deux regards. Plus jamais seul de Alex Awanter, il est chilien. Le film est interdit au moins de 12 ans, Laurent. Pablo, un jeune lycéen, se découvre une passion pour le cabaret, mais un jour il est victime d'une violente agression homophobe et s'inspire d'une histoire vraie.
Oui, voilà. Alors, vu le sujet, c'est un petit peu... L'interdiction, évidemment, est un petit peu dommage, parce que vu le sujet de dénonciation de cette agression homosexuelle extrêmement violente d'adolescents entre eux, en plus, on se dit que, bon, plus des jeunes ados verront ce film, mieux ce sera. L'intérêt de ce film glacé et proprement glaçant, c'est aussi le portrait d'un père. Le portrait d'un père qui reste sur le carreau, d'un père qui veut rétablir la vérité. Alors, on est très très loin du film de vengeance à l'américaine, hein, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que le père, eh bien, devant ce drame qui le touche, il veut juste faire retrouver à son fils sa dignité et retrouver aussi d'ailleurs sa dignité de père, dans la mesure où il n'a pas toujours été forcément en phase avec ce fils homosexuel. C'est un très très beau film, très dur, mais très beau. Ça s'appelle Plus jamais seul.
En amont du fleuve de la Belge Marion Hansel, deux hommes dans un bateau, Sergi Lopez et Olivier Gourmet remontent un fleuve vers les chutes d'eau en Croatie. Ils sont demi-frères, leur père vient de mourir, et ils vont tenter ensemble de découvrir le mystère de ce décès. Je viens de vous pitcher en quelques secondes un film d'une heure et 30 minutes qui s'étire en longueur. Deux types taiseux, la mère, un mystère familial, deux comédiens pourtant doués, mais desquels ne s'échappe aucune émotion particulière. C'est-à-dire qu'on s'ennuie tellement qu'on espère que le bateau va chavirer, que le chien va partir... les paysages sont sublimes, mais il ne se passe pas grand-chose, excepté l'ennui que nous ressentons.
La pellicule ne brûle pas,
à
un
moment donné, non ? Non ? Ah, ça a été bien,
on
ça.
On peut en rêver. Ça a été arrivé une fois au Festival de Cannes.
Je peux vous couper la parole juste une seconde ?
Bien sûr.
N'oublions pas quand même, parce qu'on parle de cinéma, que Victor Lanoux est mort cette semaine.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Je vais juste dire ça.
Donc, un mot de vous.
Et un mot de vous, alors. Alors, vous avez joué avec lui ?
Non. Non, non. Mais
pour vous, c'est quel souvenir
là? Il fait partie de cette école un peu, moi, que j'aime dans le cinéma français. Ouais. On va dire Ventura, Gabin, enfin tous ces gens avec des gueules, bagou, et puis qu'on de la tripe, quoi. Voilà, quoi. Qu'on de la gouaille et de la tripe, quoi. Parce que j'aime des vrais hommes, quoi. Voilà.
C'est vrai qu'on reste sur Louis la Brocante alors qu'il a fait vachement de choses
avant.
Je
ne sais pas de quoi vous parlez. voilà, moi, j'ai vu des choses de Lanoux qui sont extraordinaires et qui font partie du patrimoine français, tout simplement. Quoi.
Merci, je ne m'attendais pas de vous.
Je ne connais pas ce fameux Louis-là.
Louis-là.
Louis l'Abbé. On l'appelle Gig Robot, c'est un premier film... C'est un film de super-héros italien. Laurent, c'est une drôle d'histoire. C'est un type qui plonge dans les eaux du Tibre et qui entre en contact avec une substance radioactive qui le contamine, mais qui va lui donner des pouvoirs surnaturels. C'est quoi cette histoire ?
Il est italien, mais quand on est italien, c'est déjà surnaturel.
C'est ça. Tout est assez surnaturel dans ce film. L'histoire avait déjà été traitée ici en Europe par un réalisateur français pour un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Thomas Salvador, le réalisateur, et le film s'appelait Vincent n'a pas des caries. Ouais, c'était beaucoup plus modeste dans son propos.
Très modeste.
Oui, mais c'était beaucoup mieux, à mon sens, parce que franchement, cette histoire de vrais faux super-héros plongés dans l'Italie actuelle, alors que du côté des États-Unis, d'ailleurs, on nous vend des super-héros de plus en plus déprimés, là, on fait de la contre-programmation qui n'est pas forcément très intéressante, cinématographiquement parlant notamment, mais c'est un immense, énorme succès commercial en Italie, avec un film multiprimé. Bon, on nous le propose en France, pourquoi pas. C'est vrai qu'on est avant Cannes et que les écrans sont un peu vides.
Vite les cadeaux pour nos invités, Laurent, parce qu'on n'a plus le temps. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez offrir à Jean-Paul Rocchi, par exemple ?
Eh bien, le dernier film du grand Manuel de Oliveira, Visite ou Mémoire et Confession, c'est chez Épicentre, et c'est un merveilleux document testamentaire, en quelque sorte. J'espère que vous l'apprécierez.
Beaucoup.
Et puis, pour vous, une grande gueule, une autre grande gueule, Joe Star, le Charles Bukowski par Barbet Schroeder, une autre grande gueule d'ailleurs aussi. 50 entretiens, pas moins, 50 entretiens avec celui quand même qui a marqué la littérature, et pas seulement américaine, mais universelle. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. De vous entendre pour le générique, I Am Not Your Negro sort mercredi prochain de Raoul Peck, et le spectacle de Joey Starr, que j'ai eu la chance de voir moi au Théâtre de l'Atelier Éloquence à l'Assemblée, part en tournée en juin, et on mettra les dates sur le site. Merci. Générique donc avec Jean-Paul et Joey.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cante a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par David Jacubovier.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi,
Joey Starr,
Jean-Paul Rocchi,
j'y étais.